Chapitre 9e. Je vous suis très reconnaissant d'être venu, commissaire Newman. J'espère qu'il n'en résultera rien de fâcheux pour vous. Je ne pense pas qu'on s'aperçoive de mon absence. Milady, depuis quelques jours, n'aime pas me voir près d'elle. Ces mots furent prononcés avec une certaine vivacité embarrassée qui augmenta la conviction de Newman d'avoir conquis la confiance de la vieille femme. Dès le principe, vous le savez, répondit-il, vous avez pris intérêt à mes projets. Vous étiez pour moi. Je vous en garde une grande gratitude, je vous assure. Et maintenant que vous savez comment ils ont agi envers moi, vous me serez encore plus dévoué, j'en suis sûr. Ils ne se sont pas bien conduits, je l'avoue. Mais il ne faut pas blâmer la pauvre comtesse. Ils l'ont tellement influencée. Je donnerais $1 million pour savoir ce qu'ils lui ont fait, s'écria Newman. Mrs. Bread jeta un regard oblique sur les fenêtres du château où brillaient 2-3 lumières. Ils en pesaient sur elle. Ils savaient comment s'y prendre. C'est une créature délicate. Ils l'ont ensorcelée. Elle est trop bonne. Ah, ils l'ont ensorcelée. Et il répéta. Ils l'ont ensorcelée. Ils l'ont ensorcelée. C'est parce qu'elle est trop bonne qu'elle a renoncé à vous, pauvre douce lady. Ajouta Mrs. Bread. En tout cas, elle l'a été plus pour eux que pour moi. Elle a eu peur, reprit la vieille femme d'un ton de confidence. Elle a toujours eu peur, ou du moins depuis longtemps. C'était là son vrai chagrin, monsieur. Voyez-vous, elle était comme une belle pêche avec une seule petite tache. Elle aussi avait un endroit vulnérable. Vous lui avez laissé entrevoir le soleil, monsieur, mais ça n'a duré qu'un instant. Ils l'ont replongée dans l'ombre, qui l'a tout à coup enveloppée. Tout a été bien vite fini. C'était une délicate créature. Cette singulière attestation de la délicatesse de Madame de Saint-Tré, malgré ce qu'elle avait d'inattendu, rouvrit les blessures du pauvre Newman. « Je vois, » dit-il après un instant de silence. « Elle savait quelque chose de mal sur sa mère ?»« Non, monsieur, elle ne savait rien, » fit Mrs. Bread en relevant la tête et regardant de nouveau les fenêtres du château. « Elle avait des pressentiments alors ou soupçonnait quelque chose ?»« Elle avait peur de savoir. »« Mais vous, vous savez en tout cas. » Mrs. Bread tourna lentement ses yeux vagues sur Newman et joignit les mains sur ses genoux. « Ce n'est pas bien, monsieur. Je pensais que c'était à propos de Monsieur Valentin que vous m'aviez demandé de venir ici. »« Oh, plus nous parlerons de Monsieur Valentin, mieux cela vaudra, » répondit Newman. « C'est là exactement mon désir. J'étais près de lui, comme je vous l'ai dit à ces derniers moments. Il souffrait beaucoup, mais il avait toute sa tête. Vous savez, n'est-ce pas, ce que cela veut dire? Il avait l'esprit libre. » Toute sa lucidité d'esprit et toute son intelligence. Oh, il était si intelligent, monsieur, et a-t-il su ce qui vous arrivait? Oui, il l'a deviné. Et qu'est-ce qu'il en a dit? Il a dit que c'était un déshonneur pour son nom, mais que ce n'était pas le premier. Mon Dieu, murmura Mrs. Bread. Il a dit qu'un jour son frère et sa mère se sont ligués et ont fait même quelque chose de pire. Et vous pourriez croire, peut-être que non. Mais j'ai écouté et n'ai pas oublié. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce qu'ils ont fait. Mrs. Bread poussa un sourd gémissement. Et vous m'avez attiré dans cet étrange endroit pour vous dire « Ne vous alarmez pas. Je ne prononcerai pas un seul mot qui vous soit pénible. Ne me révélez que ce que vous jugerez convenable. Souvenez-vous seulement que le dernier désir de Valentin fut que vous ne me cachiez rien. » L'a-t-il dit? Ces dernières paroles ont été « Dites à Mrs. Bread que je vous ai chargé de lui demander. »« Pourquoi ne vous l'a-t-il pas dit lui-même ?»« C'était un trop long récit pour un homme mourant. Il n'avait plus la force de parler. Tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'il désirait que j'apprisse. Que, maltraité et bafoué, j'avais le droit de connaître. »« Mais comment cela vous aidera-t-il, monsieur ?»« C'est à moi de décider. » »« Monsieur Valentin croyait que cela m'aiderait. Et c'est pourquoi il en a parlé. »« Votre nom est presque le dernier mot qu'il ait prononcé. » « Excusez-moi, monsieur, si je prends une grande liberté, » dit Mrs. Bread en joignant les mains. « Est-ce bien la vérité solennelle que vous dites? Je dois vous demander cela. Ne le dois-je pas, monsieur ?»« Il n'y a pas d'offense. C'est la vérité solennelle. Je le jure. Monsieur Valentin lui-même m'en aurait certainement dit davantage s'il en avait eu la force. »« Oh, monsieur, s'il en avait su davantage, vous supposez qu'il ignorait ?»« Oh, qui peut dire qu'il ignora quelque chose? Il était si intelligent. » Si étonnamment intelligent. Il pouvait vous faire croire qu'il savait des choses qu'il ne savait pas et qu'il ne savait pas d'autres choses qui lui ont encore mieux valu pour lui ignorer. Je soupçonne qu'il connaissait certaines choses sur son frère qui tenaient le marquis en respect à son égard. Il le forçait en quelque sorte de compter avec lui. Ce qu'il a désiré avant de mourir a été de me mettre en son lieu et place. Il voulait me donner une chance de forcer le marquis à compter avec moi. « Dieu ait pitié de nous !» s'écria la vieille femme. « Comme nous sommes tous méchants !»«
Je ne sais pas trop, » dit tranquillement Newman.
« Quelques-uns d'entre nous sont méchants, certainement. Je suis furieux, je l'avoue, je suis douloureusement affecté, je suis plein d'amertume, mais je ne sais pas si je suis méchant. J'étais cruellement maltraité. Ils m'ont fait souffrir et je voudrais leur rendre l'appareil, je ne le nie pas. Au contraire, je vous dis franchement que c'est là l'usage que j'ai l'intention de faire de votre secret. » Mrs. Brett semblait retenir son haleine. « Vous voulez les dénoncer, les déshonorer ?»«
Je veux les voir à mes pieds, à mes pieds, à mes pieds !»«
Je veux qu'ils souffrent à leur tour, je veux les humilier comme ils m'ont humilié. » Ils m'ont mis à la meilleure place, m'y ont fait rester afin que tout le monde m'y vit. Et puis, ils se sont glissés traîtreusement derrière moi et m'ont poussé dans un trou sans fond où je gis, hurlant et grinçant des dents. Je joue un rôle ridicule aux yeux de tous mes amis, mais je ferai d'eux quelque chose de pire. Cette sortie passionnée, d'une vivacité d'autant plus grande que pour la première fois Newman avait enfin l'occasion de décharger son cœur, alluma de petites étincelles dans les yeux de Mrs. Brett. « Vous avez certainement le droit d'être en colère, monsieur, mais pensez au déshonneur qui rejaillira sur Madame de Saint-Tré. »«
Madame de Saint-Tré s'est ensevelie vivante !» s'écria Newman. « Que lui importe l'honneur ou le déshonneur, les portes du tombeau se referment sur elle au moment où nous parlons. »«
Oui, c'est bien horrible, » murmura Mrs. Brett. « Elle a disparu, comme son frère Valentin, pour me laisser le champ libre. C'est arrivé à propos, comme exprès, assurément. » Mrs. Brett, impressionnée sans doute par la naïveté de la réflexion de Newman, garda le silence. « Et vous traduiriez, milady, devant les tribunaux ?»«
Les tribunaux n'ont pas à s'occuper si elle est ou non une lady. Si elle a commis un crime, elle ne sera pour eux qu'une vieille femme coupable. »«
Et ils la pendront ?»«
C'est selon ce qu'elle a fait, »
dit Newman en regardant en face son interlocutrice.
« Ah, quel coup terrible ce serait pour la famille, monsieur !»
« Il est temps qu'une telle famille soit traitée selon ses mérites !»
riposta Newman avec un rire strident.
« Et moi, à mon âge, sans place, » soupira Mrs. Brett.
« Oh, je prendrai soin de vous. Vous viendrez vivre avec moi. Vous serez la gardienne de ma maison, mon intendante, tout ce que vous voudrez. Je vous ferai une pension à votre vie durant. Mon Dieu, vous avez réponse à tout. »
Elle sembla réfléchir. Newman l'examinait avec attention, sans rien dire. Tout à coup, il s'écria « Ah, Mrs. Brett, vous aimez trop, milady !» Elle leva vivement les yeux.
« Oh, c'est vous qui dites cela, monsieur ?»«
Je ne pense pas que ça fasse partie de mon devoir d'aimer milady. Je l'ai servie fidèlement pendant bien des années, mais si elle devait mourir demain, je crois devant Dieu que je ne verserai pas une larme sur elle. Ah, je n'ai pas de raison de l'aimer !» ajouta Mrs. Brett après une pause d'un instant. « Le plus qu'elle ait fait pour moi est de ne m'avoir pas chassé de la maison. » Newman comprit que décidément la vieille servante devenait de plus en plus confiante, sous l'influence sans doute de cette conversation confidentielle avec un millionnaire, et sa finesse naturelle l'avertit que son rôle maintenant devait se borner à laisser son interlocutrice prendre son temps et le charme de l'occasion produire son effet. Il garda donc le silence, se contentant de regarder avec bonté Mrs. Brett, qui, toujours assise, frottait doucement l'une contre l'autre ses mains sèches et maigres.
« Milady me fit une fois une grave injure, » dit enfin la brave dame. « Elle a une terrible langue quand elle est vexée. C'était il y a déjà bien des années, mais je ne l'ai pas oubliée. Quoique je n'en ai jamais parlé à une créature humaine, j'ai gardé ma rancune en moi-même. J'ose le dire, j'étais malheureuse. Mais ma rancune a vieilli avec moi, et elle durera jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier soupir. »
« Et quelle est votre rancune ?» demanda Newman. Mrs. Brett baissa les yeux, hésitante.
« Si j'étais une étrangère, monsieur, ça me ferait moins d'effet de vous le dire. C'est plus pénible pour une décente femme anglaise. Mais voyez-vous, j'ai pris trop d'habitudes étrangères, je crois, depuis que j'ai quitté l'Angleterre. Ce dont je vous parlais date d'un temps où j'étais plus jeune, et tout autre que je suis aujourd'hui. J'avais de belles couleurs, monsieur, et vous pouvez le croire. En vérité, j'étais une jeune fille très piquante. Milady était plus jeune aussi, naturellement, et le défunt marquis le plus jeune de tous, je veux dire. » Dans sa manière d'être, monsieur. Il avait un esprit supérieur, C'était un homme magnifique, fou de plaisir, comme la plupart des Français, et je dois avouer qu'il s'adressait quelquefois plus bas que lui, dans ses jours de Freuden. Milady était souvent jalouse, et si vous voulez le croire, monsieur, elle me fit l'honneur de l'être de moi. Un jour, que j'avais mon bonnet des rubans roses, elle se précipita sur moi et m'ordonna de les enlever, m'accusant de m'en être paré pour attirer l'attention du marquis. Je ne sais pas si je fus impertinente, mais j'eus le verbe haut, comme une fille honnête, et ne pris pas garde à mes paroles. Des rubans roses, en vérité, avec ça que c'était de mes rubans que se souciait le marquis. Milady sut plus tard que j'étais parfaitement respectable, mais ne me dit jamais un mot pour me prouver qu'elle le savait. Le marquis, c'est autre chose, ajouta Mrs. Brad. J'ôtai mes rubans roses et je les fourrai dans un tiroir, où je les ai gardés jusqu'à ce jour. Ils sont fanés maintenant, d'un rose pâle, mais ils sont encore là. C'est comme ma rancune. Elle s'est, elle aussi, affaiblie. La vivacité en est passée, mais elle est toujours là. Et Mrs. Brett se frappa son corsage de soie noire à l'endroit du cœur. Newman écoutait avec intérêt cet innocent et naïf récit, qui semblait avoir ouvert les profondeurs de la mémoire de la vieille servante. Puis, comme elle gardait le silence, absorbée, sans doute, dans une méditation rétrospective sur sa parfaite honorabilité, il se hasarda à revenir brusquement à son point de départ. De sorte que Madame de Bellegarde était jalouse, je comprends, et Monsieur de Bellegarde admirait les jolies femmes, sans distinction de classe. Je suppose qu'il ne faut pas être trop sévère pour lui, car elles ne se sont pas toutes probablement conduites avec autant de convenance que vous. Mais plus tard, ce ne peut pas être la jalousie qui ait rendu criminelle Madame de Bellegarde. Mrs. Brett poussa un profond soupir. Nous employons des mots bien terribles, monsieur, mais peu importe maintenant. Vous avez votre idée, je le vois, et moi, je n'ai plus ma volonté. Ma volonté, c'était celle de mes enfants, comme je les appelais. Hélas, j'ai perdu mes enfants aujourd'hui. Ils sont morts, je peux le dire de tous les deux. Et pourquoi me préoccuperais-je de ceux qui restent? Qu'est-ce qu'ils me sont, et que suis-je pour eux? Milady ne peut pas me sentir, et c'est comme ça depuis 30 ans. J'aurais été heureuse d'être quelque chose pour la jeune Madame de Bellegarde, quoique je n'ai pas élevé le marquis actuel. Quand il était un baby, j'étais trop jeune. On ne voulait pas me le confier. Mais sa femme a dit à sa femme de chambre, Mlle Clarisse, l'opinion qu'elle avait de moi. Peut-être aimeriez-vous la savoir, monsieur?
Oh, énormément.
Elle a dit que si je restais dans la chambre de ses enfants, je ferais tout à fait l'affaire pour un essuie-plume. Quand les choses en arrivent là, je ne crois pas qu'on ait besoin de se gêner.
Décidément non, dit Newman. Continuez, Mrs. Brad.
Mrs. Brad, cependant, retomba dans une sorte de rêverie inquiète et garda le silence. Newman n'eut pas d'autre parti à prendre que de se croiser les bras et d'attendre. La vieille femme sembla enfin avoir mis ses souvenirs en ordre. Du temps dont je vais parler maintenant, le marquis était déjà un vieillard. Son fils aîné était marié depuis 2 ans, et il était temps de marier Mademoiselle Claire, c'est comme ça qu'on disait, vous savez. La santé du marquis allait de mal en pis. Il était épuisé. Milady jeta les yeux sur Monsieur de Saint-Tré. Je ne sais pas, ma foi, pour quel motif. Mais il y a des raisons qui nous échappent à nous autres et qu'il faut être du grand monde pour comprendre. Le vieux Monsieur de Saint-Tré était de haute naissance. Milady le considérait comme aussi noble qu'elle-même, ce qui n'est pas peu dire. Monsieur Urbain se mit du parti de sa mère, selon son habitude. L'embarras, je crois, était que Milady ne voulait donner que peu de dot. Tous les autres gentlemen ne se contentaient pas de ça. Monsieur de Saint-Tré seul se déclarait satisfait. Dieu l'avait fait ainsi. C'était là sa seule qualité. Il n'était pas intéressé. Possible qu'il fût de haute naissance. Il avait certainement de très grandes façons dans ses saluts et ses discours, mais c'était là la seule grandeur qu'il eût. Comme font les comédiens, à ce que j'ai entendu dire, car pour moi je n'en ai jamais vu aucun, il se peignait la figure. Ah, il aurait pu la peindre tant qu'il aurait voulu, il ne me l'aurait pas fait aimer. Le marquis ne pouvait souffrir ce gendre qu'on avait la prétention de lui imposer. Il déclara que plutôt que de choisir un tel mari pour Mademoiselle Claire, il aimerait mieux ne jamais la marier. Il y eut une scène atroce entre lui et Milady. Elle arriva jusqu'à nos oreilles dans la cuisine. Ce n'était pas là leur première querelle, s'il faut dire la vérité. Ce n'était pas un couple bien uni, mais ils en venaient rarement aux gros mots parce que, je pense, ni l'un ni l'autre ne croyait nécessaire de se mettre martel en tête pour leur conduite respective. Milady avait depuis longtemps mis sa jalousie de côté et était devenue tout à fait indifférente. En cela, je dois l'avouer, ils étaient parfaitement assortis. Le marquis était tout ce qu'il y avait de plus facile à vivre, le caractère le plus doux. Il ne se mettait en colère qu'une fois par an, mais alors c'était terrible. Il prenait le lit immédiatement après. La fois dont je parle, il se mit au lit comme d'habitude, mais il ne se releva pas. Je crains que le pauvre gentilhomme n'ait payé là pour sa vie dissipée. N'est-ce pas ainsi que cela arrive la plupart du temps, monsieur, quand on devient vieux ? Milady et monsieur Urbain se tinrent tranquilles pendant quelque temps et ne parlèrent plus du mariage. Ça n'empêcha pas, cependant, Milady d'écrire lettre sur lettre à monsieur de Saint-Tré. Alors, l'état du marquis empira. Les docteurs le condamnèrent. Ils dirent qu'il n'y avait plus rien à faire. Milady, elle aussi, renonça à le soigner, et s'il faut dire la vérité, elle y renonça avec bonheur. Une fois débarrassée de son mari, elle pouvait agir à sa guise avec sa fille. Il était convenu que ma pauvre innocente enfant serait livrée pieds et poings liés à monsieur de Saint-Tré. Vous ne pouvez pas vous douter, monsieur, de ce qu'était mademoiselle dans ce temps-là, la plus adorable fille de France. Se doutant si peu de ce qui se manigançait autour d'elle que l'agneau chez le boucher, c'est moi qui soignais le marquis. J'étais presque toujours dans sa chambre. C'était ici, à Fleurières, en automne. Nous avions un médecin de Paris qui resta 3 semaines au château. Puis il en vint 2 autres en consultation. Ils déclarèrent, comme je vous l'ai déjà dit, l'état du marquis désespéré. Après quoi ils partirent, encaissant leurs honoraires. Mais celui qui resta fit son métier de son mieux. Le marquis criait qu'il ne mourrait pas, qu'il ne voulait pas mourir et qu'il vivrait pour sa fille. Mademoiselle Claire et le vicomte, c'était monsieur Valentin, vous le savez, étaient tous deux au château. Après quelques instants de silence, Mrs. Brett continua. Le médecin pensait que le marquis pouvait guérir. Nous prîmes grand soin de lui, à nous deux, et un beau jour, comme Milady avait presque commandé son deuil, notre malade commença tout à coup à aller mieux. Cela continua si bien que le docteur le déclara bientôt hors d'affaire. Ce qui l'avait surtout fait souffrir, c'était d'horribles accès de douleur intolérables dans la poitrine. Mais peu à peu ils cessèrent, et le pauvre marquis redevint gai comme par le passé. Le docteur avait composé une potion qui ne manquait jamais de le soulager. Je ne sais quelle boisson blanche que nous gardions dans une bouteille sur la cheminée. J'avais coutume de la lui faire prendre par un tube de verre. Alors le docteur, jugeant sa présence inutile au château, retourna à Paris, après m'avoir bien recommandé de toujours donner cette potion au marquis chaque fois qu'il se sentirait moins bien. Après cela, ce fut un petit médecin de Poitiers qui vint chaque jour, de sorte que nous étions seuls au château, Milady, son pauvre mari et leurs 3 enfants. La jeune madame de Bellegarde était partie avec sa petite fille pour passer quelque temps chez sa mère. Vous savez qu'elle est très mondaine. Sa femme de chambre disait qu'elle n'aimait pas à rester là où il y avait des mourants. Mrs. Brett s'arrêta un moment, puis reprit avec la même prolixité tranquille. Vous avez deviné, je pense, monsieur, qu'en voyant son mari se remettre, Milady fut désappointée. Elle s'arrêta à nouveau, penchant vers Newman son visage, qui semblait de plus en plus blafard à mesure que l'obscurité s'épaississait. Newman l'avait écouté avidement, suspendu à ses lèvres comme, quelques jours auparavant, à celle de Valentin mourant. De temps en temps, quand la respectable duègne levait les yeux sur lui, elle lui rappelait une vieille chatte angora prolongeant le plaisir de boire une tasse de lait. Elle jouissait de son triomphe, mais avec une mesure pleine de décorum. Elle en avait évidemment perdu l'habitude, elle reprit. Une nuit, à une heure assez avancée, j'étais assise au chevet du marquis dans sa chambre, la grande chambre rouge de la tour de l'Ouest. Il s'était plaint de souffrir un peu et je lui avais fait prendre une cuillère de la potion du docteur. Milady, après être restée près de lui la première partie de la soirée, se retira et me laissa seule. Elle revint vers minuit accompagnée de son fils aîné. Ils s'approchèrent du lit, regardèrent le marquis, et Milady lui prit la main. Elle se tourna alors vers moi, me disant qu'elle le trouvait moins bien. Je me souviendrai toujours du regard épouvanté que le marquis, sans prononcer une parole, fixa sur elle. Je pouvais apercevoir sa figure pâle, dans le grand carré noir formé par les rideaux. Je répondis que je ne le croyais pas si mal. « Allez vous reposer, » me dit-elle alors, « je veillerai près de lui. » Quand le marquis me vit sur le point de sortir de la chambre, il poussa une espèce de grognement et me demanda à haute voix de ne pas le quitter. Mais M. Urbain, m'ouvrant la porte, me fit signe de partir. Le marquis actuel, vous l'avez peut-être remarqué, monsieur, a une manière hautaine de vous donner des ordres qui vous coupent en deux, et je ne pouvais qu'obéir. J'allais dans ma chambre, mais je n'étais qu'à moitié rassuré. Je n'aurais pu dire pourquoi. Vous savez, une de ces inquiétudes qu'on n'explique pas. Je m'assis, sans me déshabiller, attendant et écoutant. Quoi, me demanderez-vous ? Je ne saurais le dire, car sûrement un pauvre malade devait se trouver heureux d'avoir auprès de lui sa femme et son fils. Que voulez-vous ? Il me semblait que j'allais tout instant entendre de nouveau gémir et appeler après moi. J'écoutais, mais je n'entendis rien. La nuit était calme, d'un calme étonnant. À la fin, ce silence même m'effraya. Je quittai ma chambre et descendis tout doucement l'escalier. Dans le petit salon précédant la chambre à coucher du marquis, je trouvai M. Urbain qui se promenait de long en large. « Que voulez-vous ? » me demanda-t-il. « Je revenais pour relayer Milady, » répondis-je. « C'est bien, » fit-il, « je prendrai sa place. S'il se sent fatigué, retournez vous coucher. » Comme je restais là, hésitant à m'en aller, la porte de la chambre s'ouvrit et Milady parut sur le seuil. Je fus frappé de sa pâleur et de son air étrange. Elle regarda un moment le comte et moi, puis tendit ses bras au comte qui alla vivement à elle. Alors elle se laissa tomber dans ses bras en se cachant le visage contre sa poitrine. Je passai à la hâte devant elle et me précipitai vers le lit du marquis. Le pauvre cher homme était étendu, la tête renversée sur l'oreiller, livide, les yeux fermés. Je le crus mort, je me retournai. Milady et M. Urbain étaient derrière moi. « Ma pauvre Brad, » dit Milady, « Monsieur le marquis est mort. » M. Urbain s'agenouilla et dit à voix basse, « Mon père, mon père. » Ça me sembla terriblement étrange et je demandai à Milady ce qui avait pu se passer et pourquoi elle ne m'avait pas appelé. Elle me répondit que rien ne s'était passé, qu'elle était seulement restée là, à côté du lit, dans la plus grande tranquillité. Elle avait fermé les yeux, croyant pouvoir dormir, et avait dormi en effet, elle ne savait combien de temps. Quand elle s'était réveillée, le marquis était mort. « C'est la mort, mon fils, c'est la mort, » dit-elle au comte. Monsieur Urbain répondit qu'il fallait aller chercher immédiatement le docteur à Poitiers, qu'il allait monter à cheval et le ramènerait. Il baisa son père au front, puis embrassa sa mère et partit. Milady et moi nous restâmes seuls au chevet du lit. Comme je regardais le pauvre marquis, l'idée me vint qu'il n'était pas mort, mais seulement dans une espèce de syncope. Alors Milady répéta, « Ma pauvre Brad, c'est la mort, voyez-vous, c'est bien la mort. » « Oui, Milady, c'est certainement la mort, » répondis-je. J'avais conscience de lui dire juste le contraire de ce que je pensais. Nous nous assîmes en attendant l'arrivée du médecin. Le temps se passa ainsi et le médecin n'arrivait pas. Le marquis était toujours dans un état d'immobilité complète. « J'ai déjà vu la mort, » disait la marquise. « C'est terriblement comme cela. »« Oui, Milady, » répondais-je, « et je n'en pensais pas moins. » La nuit s'écoula sans que le comte revînt. Milady commença à s'effrayer. Elle craignait qu'il ne lui fût survenu quelque accident au milieu de l'obscurité ou qu'il eût fait quelque mauvaise rencontre. À la fin, elle devint si agitée, si fébrile, qu'elle descendit dans la cour pour attendre son fils. Je restais seul dans la chambre. Le marquis ne bougeait toujours pas. Ici, Mrs. Brett s'arrêta de nouveau. Le plus habile des romanciers n'aurait pu atteindre un effet plus pathétique. Newman fit un mouvement comme s'il tournait la page d'un roman. « De sorte qu'il était mort, » s'écria-t-il. « 3 jours plus tard, il reposait dans son tombeau, » dit sentencieusement Mrs. Brad. Quelque temps après la sortie de la marquise, je m'avançai avec précaution jusque dans l'antichambre pour jeter un coup d'œil dans la cour. J'étais inquiète, moi aussi, de l'absence prolongée du comte. Au bout d'un instant, je vis M. Urbain rentrer seul à cheval. J'attendis plusieurs minutes, croyant qu'il allait monter au premier étage avec sa mère, mais ils restèrent au rez-de-chaussée et je rentrai dans la chambre du marquis. Je m'approchai du lit, élevant la bougie pour mieux voir. Je ne sais pas comment, je ne laissais pas tomber le bougeoir. Les yeux du marquis étaient ouverts, grands ouverts. Je me précipitai à genoux, je pris ses mains, lui demandant dans mon ahurissement de me dire s'il était mort ou vivant. Il me regarda pendant longtemps, puis me fit signe d'approcher mon oreille tout près de sa bouche. « Je suis mort, » dit-il. « Je suis mort. La marquise m'a tué. » J'étais toute tremblante. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qui était advenu de lui. Il semblait être un homme et un cadavre, si vous pouvez imaginer cela, monsieur. « Mais vous vous remettrez, sœur, » lui dis-je. Alors il murmura de nouveau, mais d'une voix si faible. « Je ne voudrais pas guérir pour un empire. » « Je ne voudrais pas me retrouver le mari de cette femme. » Et puis il me dit bien d'autres choses. Il me dit qu'elle l'avait assassiné. Je lui demandais ce qu'elle lui avait fait. Il me répondit seulement « Meurtre, meurtre, et elle tuera ma fille, » dit-il aussi. « Ma pauvre, malheureuse enfant. » et il me demanda d'empêcher cela. Puis il dit encore qu'il était mourant, qu'il était mort. J'avais peur de faire un mouvement, de le quitter. J'étais presque morte moi-même. Tout à coup, il me demanda de prendre un crayon et d'écrire sous sa dictée. Je lui dis que je ne savais pas écrire. Alors il me demanda de le soutenir dans son lit pour qu'il puisse écrire lui-même. Il semblait éprouver une espèce de terreur qui lui donnait de la force. Je trouvai un crayon dans un tiroir, une feuille de papier dans un livre. Je plaçai le papier sur le livre, le crayon dans la main du marquis, et j'approchai la bougie tout près de lui. « Vous trouvez tout cela étrange, monsieur ?»«
C'était bien étrange, en effet. » »«
Mais le plus étrange de tout, c'est que je croyais qu'il allait mourir et que je m'empressais de l'aider à écrire. Je m'assis sur son lit et lui entourant la taille de mon bras, je parvins à maintenir droit le haut de son corps. Je me sentais toute forte. Je crois que j'aurais pu le soulever et le porter. C'est étonnant qu'il ait pu écrire. Il écrivait cependant d'une main mal assurée. Il couvrit presque tout un côté du papier. Ça me sembla long. Je suppose que ça dura 3 ou 4 minutes. Il poussa tout le temps de terribles plaintes. Enfin, il murmura que c'était fini et se laissa retomber sur son oreiller. Quelques instants après, il me remit le papier, me dit de le plier, de le cacher et de le donner à ceux qui pourraient agir d'après son contenu. « De qui voulez-vous parler ? » demandai-je. « Quels sont ceux qui pourront agir ?» Pour toute réponse, il poussa un gémissement. Il était trop faible pour causer. Il me fit seulement signe de prendre la bouteille sur la cheminée. Vous savez, la potion blanche qu'il calmait tant. Je la pris, elle était vide. Quand je me retournai, les yeux du marquis étaient ouverts, avidement fixés sur moi, mais aussitôt, il les referma et ne prononça plus une parole. Je cachai le papier dans mon corsage, sans lire ce qui était écrit dessus. Quoique je sache très bien lire, monsieur, si je ne sais pas écrire. Je m'assis près du lit et j'attendis. Au bout d'une demi-heure, Milady et le comte rentrèrent dans la chambre. Le marquis avait exactement la même apparence qu'avant son départ, et je ne soufflais mot de ce qui s'était passé. Monsieur Urbain me dit que le docteur, forcé de se rendre auprès d'une femme en mal d'enfant, avait promis de venir à Fleurir aussitôt que possible. Une heure ne s'était pas écoulée, en effet, qu'il arriva. À peine le médecin, continua Mrs. Bread, eut-il examiné le marquis qu'il nous rassura. C'était selon lui une fausse alarme. Le pauvre gentleman était certainement bien bas, mais il respirait encore. Pendant qu'il parlait, je suivais du coin de l'œil la marquise et son fils pour voir s'ils ne se jetaient pas un regard. Je suis forcé d'avouer que non. Le docteur déclara qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il mourût. Il allait si bien depuis quelque temps. Et alors, il désira savoir comment la crise était venue. Il ne pouvait se l'expliquer. Milady raconta de nouveau sa petite histoire, ce qu'elle avait raconté à Monsieur Urbain et à moi. Le docteur la regardait sans rien dire. Il resta au château toute la journée du lendemain et ne quitta pas le marquis. J'étais toujours là aussi. Mademoiselle et Monsieur Valentin vinrent voir leur père, toujours étendu, sans mouvement, dans son lit. C'était un étrange engourdissement. Ça ressemblait à la mort. Milady allait et venait sans cesse, le visage aussi livide que celui de son mari, mais l'air toujours aussi hautain, comme elle l'était quand on n'obéissait pas à ses ordres ou à ses désirs. Peut-être trouvait-elle que le pauvre homme la bravait en ne mourant pas. Ma parole, c'était à le croire. Sa manière d'être m'effrayait. Nous attendions l'autre médecin de Paris, celui qui, je vous l'ai dit, avait déjà passé quelque temps à Fleurières. On lui avait télégraphié de grand matin et il arriva le soir même. Il s'entretint d'abord avec le docteur de Poitiers et ils vinrent ensuite ensemble voir le marquis. J'étais près de lui, ainsi que Monsieur Urbain. Quant à la marquise, quoiqu'elle fût allée au-devant du médecin de Paris, elle ne rentra pas avec lui dans la chambre de son mari. Il s'assit au chevet du lit. Je le vois encore tâtant le pouls au malade, et M. Urbain le suivant des yeux, son lorgnon à la main. « Je suis certain qu'il est mieux, » dit le petit médecin de Poitiers. « Je suis sûr qu'il en reviendra. » À ce moment-là même, le marquis ouvrit les yeux, comme s'il se réveillait d'un paisible sommeil, et nous regarda les uns après les autres. Je le vis fixer son regard sur moi, avec bonté, oserais-je dire. Par malheur, la marquise entra alors sur la pointe du pied et mit sa tête entre le comte et moi. Le marquis, en l'apercevant, poussa un long soupir, un soupir prodigieux. Il murmura quelque chose que nous ne pûmes saisir et sembla éprouver une espèce de spasme. Il frémit de tout son corps, puis ferma les yeux.
Le docteur se leva en sursaut et prit Milady par le bras. Il la tint aussi un peu rudement pendant quelques instants. Le marquis était raide mort. Cette fois, il n'y avait pas à en douter. Newman était ému, comme s'il avait lu à la clarté des étoiles le récit d'un témoignage de première importance dans une affaire de meurtre. « Et le papier ?»« Le papier » s'écria-t-il, excité. « Qu'avait-il décrit ?»«
Je ne le sais pas, monsieur, » répondit Mrs. Brad. « Je n'avais pas pu le lire, il était en français. »
« Mais d'autres que vous l'auraient pu. »
« Je ne l'ai jamais montré à qui que ce soit au monde. »
« Alors personne ne l'a vu. »
« Si vous le voyez, vous serez le premier. »
Newman saisit la main de la vieille femme dans les deux siennes et la pressa vigoureusement.
« Je vous remercie, de toute mon âme, » s'écria-t-il. « Je veux être ce premier-là. Je veux que ce papier devienne ma propriété exclusive. »
« Mrs. Brad, il n'y a pas en Europe de femme plus intelligente que vous. »
Et qu'avez-vous fait de cette lettre?
Donnez-la-moi bien vite.
Mrs. Brad se leva avec une certaine majesté.
Ce n'est pas si facile que cela, monsieur, dit-elle. Si vous désirez avoir ce papier, il vous faudra attendre.
Mais attendre est horrible, vous savez,
insista Newman.
J'ai bien attendu, moi. J'ai attendu pendant tant d'années.
C'est vrai. Vous avez attendu pour moi. Je ne l'oublierai pas.
Et cependant, comment n'avez-vous pas suivi les ordres de monsieur de Bellegarde? Et n'avez-vous montré ce papier à personne?
À qui l'aurais-je montré?
J'étais bien embarrassé. Et plus d'une nuit, je n'ai pas fermé l'œil en y pensant.
6 mois après, quand il mariait Mademoiselle Claire à son vicieux et vieux mari, je fus sur le point de tout révéler. Je pensais que mon devoir était de parler, et pourtant, la peur m'en empêcha. Qu'est-ce qui était écrit sur ce papier? Je ne le savais pas. Quel secret pouvait-il contenir? Je ne connaissais personne qui m'inspirât assez de confiance pour le demander. Et puis il me semblait que ce serait être bien cruel envers cette douce créature de lui faire connaître que son père accusait sa mère d'un crime, comme je le supposais. Je pensais qu'elle serait encore moins malheureuse avec son mari qu'en apprenant la vérité. C'est pour elle et pour mon cher monsieur Valentin que je me tins tranquille. J'appelle ça de la tranquillité. Mais ce fut une tranquillité bien lourde à porter.
Ah, si vous saviez, monsieur, ça m'a tellement changé.
Je n'en ai pas moins gardé le silence, et personne n'a jamais su ce qui s'était passé entre le pauvre marquis et moi.
Mais évidemment, il y eut des soupçons, observa Newman. Où monsieur Valentin a-t-il pris ses idées?
Elles lui sont venues du petit médecin de Poitiers. Et il n'était pas content, le médecin, et il fit un bruit d'enfer. C'était un Français tout feu et flamme, et en venant au château chaque jour, il vit plus de choses qu'il n'en eut l'air. Et en vérité, cette mort foudroyante du marquis, aussitôt que ses yeux avaient rencontré ceux de Milady, était si étrange. Chacun avait dû faire ses réflexions. Le médecin de Paris fut plus accommodant et imposa silence à son confrère. Mais malgré toutes les précautions, M. Valentin et Mademoiselle saisirent bien par-ci par-là quelques mots au passage. Et ils surent que la mort de leur père n'avait pas été naturelle. Bien sûr. Ils n'accusèrent pas leur mère, et comme je vous l'ai dit, moi, je fus aussi muette qu'une pierre. Monsieur Valentin me regardait quelquefois en plein visage, et ses yeux brillaient, comme s'il eût voulu m'interroger. J'avais horriblement peur qu'il ne me parlât, et je m'empressai alors de le quitter et de m'occuper de mon ouvrage. Si je m'étais laissé aller à tout lui révéler, je suis sûr qu'après il m'aurait haï, et je n'aurais pu le supporter. Un jour, je m'approchai de lui, et je pris une grande liberté. Je l'embrassai, comme je le faisais quand il était tout enfant.
« Vous ne devriez pas vous chagriner ainsi, monsieur, lui dis-je, croyez-en votre vieille Brad. Un si charmant et si honnête jeune homme que vous ne doit pas avoir de sujet de tristesse. »
Je pense qu'il me comprit. Il comprit ce que je lui demandais et ne m'interrogea pas. Nous avions peur, tous les deux, de déshonorer une ancienne famille respectée de tous. Ce fut la même chose avec mademoiselle. Elle ne savait pas ce qui s'était passé et n'aurait pu le savoir. Milady et M. Urbain ne m'adressèrent pas de questions parce qu'ils n'avaient pas de raison pour le faire. Je me tins aussi tranquille qu'une souris. Quand j'étais jeune, Milady me croyait une coquine. Et à cette époque-là, elle me croyait idiote. Comment aurais-je pu avoir aucune idée?
Mais vous disiez tout à l'heure que le petit médecin de Poitiers avait bavardé. Personne ne fit-il attention à ces révélations?
Je n'en ai rien entendu dire, monsieur. Dans ces pays étrangers, vous l'avez peut-être remarqué, On parle toujours de scandale et je suppose que plus d'un secoua la tête en arrière de Madame de Bellegarde. Mais après tout, qu'aurait-on pu dire? Le marquis avait été gravement malade et le marquis était mort. Il avait le droit de mourir, comme n'importe qui, et le docteur n'aurait pas osé soutenir qu'il n'était pas mort tout simplement de ses crampes d'estomac. L'année suivante, le petit médecin quitta Poitiers pour s'établir à Bordeaux, et les bavardages cessèrent ainsi d'eux-mêmes, et puis je ne pense pas qu'on aurait beaucoup ajouté foi à des bavardages sur Milady. Milady est si respectable. Newman, cette dernière affirmation éclata d'un rire homérique. Mrs. Brett s'était peu à peu rapprochée du mur en ruine. Il l'aida à passer par l'ouverture de la porte et la reconduisit jusqu'au château. Oui, oui, la respectabilité de Milady, c'est délicieux. C'est une véritable trouvaille, murmura-t-il. Ah, ce sera un terrible écroulement. Devant l'église, ils s'arrêtèrent, se regardant en face avec un air d'intimité comme deux conspirateurs. « Mais enfin, » dit Newman, « que s'est-il passé? Qu'a-t-elle fait à son mari? L'a-t-elle poignardé ou empoisonné? Je ne sais pas, monsieur. Personne n'a rien vu. »« Monsieur Urbain, lui, a vu, peut-être. Vous m'avez dit qu'il se promenait de long en large, en dehors de la chambre. Il a probablement regardé par le trou de la serrure. Mais non. Avec sa mère, j'imagine, il ne devait pas être inquiet du résultat. Il s'en rapportait à elle. Ah, j'y ai bien souvent pensé. Je suis toujours certaine d'une chose, c'est qu'elle n'a pas porté la main sur lui. Je n'ai vu aucune trace sur son corps, aucune. Je pense que ça a dû se passer ainsi. Il a eu un accès, une crise, et il a demandé la potion. Au lieu de la lui donner, elle a vidé la bouteille devant ses yeux. Alors il a bien vu qu'elle voulait sa mort. Et faible, épuisé comme il était, il a eu peur, il a été terrifié. « Vous voulez donc que je meure ? » a-t-il dit. « Oui, monsieur le marquis, je désire votre mort. » a répondu Milady, en s'asseyant, les yeux fixés sur lui. « Vous connaissez le regard de Milady, je pense, monsieur. C'est avec son regard qu'elle l'a tué. C'est avec la terrible énergie qu'elle met dans ses yeux, quelquefois. C'est comme le froid sur les fleurs. » « Eh bien, vous êtes une femme vraiment intelligente, Mrs. Brad. Vous avez montré une grande discrétion. Je priserai extrêmement vos services comme intendante, » dit Newman. Ils avaient commencé à descendre la colline. Mrs. Brett garda le silence jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés devant la cour du château. Newman marchait allègrement à côté d'elle, la tête renversée en arrière. Il regardait les étoiles et semblait lire sa vengeance dans la Voie lactée. « De sorte que c'est sérieux, monsieur, cette proposition-là ? » demanda doucement la vieille femme. « Quelle proposition ? » fit Newman. « Celle de vous attacher à ma personne ? Mais certainement. Il va sans dire que je prendrai soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. » Vous ne pouvez rester plus longtemps avec ces gens-là. Et vous ne le devez pas, vous savez, après ce que vous m'avez révélé. Vous me remettrez le papier et vous quitterez le château. Ça me semble si étrange et si léger de ma part d'entrer dans une nouvelle place à mon âge, observa tristement Mrs. Brad. Mais au fait, si vous mettez la maison sens dessus-dessous, je serai bien forcé de la quitter. Oh ! S'écria Newman du ton enjoué d'un homme qui se sent riche en alternative. « Je ne pense pas avoir besoin de faire appel au constable, si c'est ça que vous voulez dire. Quoi qu'ait pu commettre Madame de Bellegarde, la loi, je le crains, n'aurait pas pris sur elle, et j'en suis heureux. C'est moi seul que cela regarde. »« Vous êtes un gentleman d'une grande hardiesse, monsieur, » murmura Mrs. Brad. Puis, après un instant d'hésitation, « Eh bien, c'est convenu, vous aurez le papier d'ici à une demi-heure. Je vous quitte ici. Je préfère entrer au château par les derrières. » J'ai la clé de la petite porte du parc. Allez m'attendre de l'autre côté du mur. Je vous retrouverai là. » La demi-heure sembla longue à Newman dans l'obscurité, mais il avait de quoi occuper ses pensées. À la fin, la porte du parc s'ouvrit et Mrs. Brad parut, tenant d'une main le pen de la serrure et de l'autre un chiffon de papier blanc plié en petits morceaux. Newman s'en empara vivement et le mit dans la poche de son gilet. « Venez me rejoindre à Paris, » dit-il. « Nous aurons à convenir de votre existence future, vous savez, et je vous traduirai les derniers mots du pauvre monsieur de Bellegarde. » Jamais Newman n'eut mieux senti qu'en ce moment toute la reconnaissance qu'il devait au vieux Nioche pour ses leçons. Mrs. Brad avait suivi d'un œil mélancolique la disparition du papier. Elle poussa un profond soupir. « Eh bien, vous êtes arrivé à vos fins avec moi, monsieur. Je n'aurai pas, j'espère, à m'en repentir. Il vous faut prendre soin de moi maintenant. »
Vous êtes un gentleman terriblement positif.
Pour le moment, dit Newman, je suis un gentleman terriblement impatient.
Il lui souhaita bonne nuit et regagna à pas presser l'auberge de Fleurières, où il ordonna qu'on attelât sa voiture pour retourner à Poitiers. Alors il ferma à clé la porte de la salle commune et, tirant de sa poche le précieux document, il le déplia d'une main fébrile. Il était couvert de signes au crayon qui, au premier abord, lui semblèrent indéchiffrables. Mais la féroce curiosité de Newman eut bientôt raison de ces caractères à peine distincts.
« Ma femme a voulu me tuer et elle a réussi. Je meurs. Je meurs d'une manière horrible. C'est pour marier ma fille chérie à monsieur de Saint-Tré. Je proteste de toute mon âme contre ce mariage. Je m'y oppose. Je ne suis pas fou. Demandez au docteur. Demandez à Mrs. B. J'étais seul cette nuit. Elle m'a attaqué et m'a tué. C'est un meurtre. C'est un assassinat. Si jamais il y en eut un. Demandez au docteur. » Henri Urbain de Bellegarde.